Au cours des premières deux conférences de cette série, nous avons vu que l'enseignement des scribes professionnels en l'écriture cunéiforme en Antiquité était souvent mal adapté aux besoins quotidiens. Il était toujours plus important pour les scribes de faire une distinction claire entre eux et ces autres qui savaient lire et écrire un peu, mais sans formation formelle. Si l'on rendait le cunéiforme trop facile à apprendre, alors trop de gens voudraient à l'acquérir et ils n'auraient plus besoin de scribes eux-mêmes. Donc, ils se comportaient comme gardiens de leur profession en créant des barrières artificiellement hautes contre l'accès. Ils insistaient que leurs étudiants doivent mémoriser et répéter des longs textes en sumérien, soit vocabulaire, thématique, soit œuvres littéraires, qui ont souligné leur obligation de servir. Néanmoins, au deuxième quart du deuxième millénaire avant, c'est-à-dire pendant l'époque paléo-babylonienne, beaucoup de gens s'apprendraient à lire et à écrire le cunéiforme, soit dans la ville, soit dans la campagne. Cela impliquait qu'on suivait les premières étapes de la programme scribal pour apprendre les syllabes les plus simples et les plus utiles, peut-être 80 ou 100 signes en total. Puis, on vivotait sans si d'être exact juste dans le moindre détail, pourvu que les écrits restaient plus ou moins compréhensibles pour les autres. Un millénaire plus tard, après l'arrivée de l'alphabet en Mésopotamie, peu à peu, la plupart des gens ont abandonné le cunéiforme, une fois qu'il est devenu socialement acceptable de le faire. Enfin, il ne restait que des savants autour des grands temples urbains qui utilisaient le cunéiforme pour écrire les ouvrages traditionnels et aussi innovateurs. Quoique l'accent pédagogique était maintenant sur le langue acadien, au lieu de sumérien, et sur copier et retenir les manuscrits, à long terme, cela ne suffisait pas à recruter les jeunes comme scribes. Finalement, à Babylone, vers 50 ans avant, les derniers scribes en cunéiforme sont quittés ou sont morts, sans plus d'étudiants pour les suivre. Donc, aujourd'hui, je veux examiner le process converse. Après la découverte du cunéiforme au première moitié du 19e millénaire. Comment a-t-on commencé à enseigner cette écriture qui était à la fois toute neuve et toute ancienne? Comment cet enseignement a-t-il évolué et pourquoi? Quelles sont les similitudes et les différences entre les communautés scribaux d'Antiquité et de nos jours? Le sujet du déchiffrement lui-même est bien connu, et donc je vais rabâcher cet épisode brièvement. Beaucoup moins étudié sont les décennies immédiatement après, une époque que j'ai appelée le temps des autodidactes. Puis, les premiers manuels de cunéiforme ont apparu dans les années 60 et 70 de la 19e siècle. Ils ont été influencés, sans surprise, par les théories pédagogiques actuelles de leur époque. On peut tracer leurs influences et leurs successeurs à tour. Enfin, je terminerai en me réfléchissant pour ma propre carrière en tant qu'étudiant et de professeur de cunéiforme à l'Angleterre de la fin du 20e siècle jusqu'au présent. Les savants occidentaux ont pris conscience de l'écriture cunéiforme mésopotamienne au début du 19e siècle. La pierre de Rosette de l'écriture cunéiforme est l'inscription que vous voyez ici, l'inscription de Bizutun ou Behistun, une énorme inscription rocheuse, trilingue, dans l'haut de la montagne dans l'Iran moderne, près de la frontière avec l'Irak. La première tentative sérieuse de l'examiner a été faite en mai 1835 par un diplomate britannique, Henry Rawlinson, qui était en Perse à ce moment comme conseiller militaire du gouverneur du Kurdistan. Il a réussi à grimper plusieurs fois les falaises pour faire une copie en papier mâché du cunéiforme, alors incompréhensible. Beaucoup d'hommes ont travaillé sur le déchiffrement des cunéiformes dans toute l'Europe, de la Scandinavie à l'Irlande. Pour couper une histoire longue et bien répétée, il est vite apparu qu'il y avait en fait trois écritures cunéiformes, comme vous voyez. Mais c'était le cunéiforme assyrien qui a présenté le défi le plus difficile. Avec un répertoire d'au moins 600 signes différents, il comprenait des signes syllabiques, des logogrammes représentant des mots entiers et des déterminants qui fonctionnaient comme marqueurs sémantiques. Pire encore, bien que la majorité des inscriptions se trouvaient dans la langue sémitique assyrienne, ancêtre indirect de l'hébreu et de l'arabe, il était de plus en plus clair que le cunéiforme, l'écriture, avait été créé pour une autre langue entièrement, dont la morphologie, la syntaxe et le répertoire phonémique étaient entièrement différents. Nous savons maintenant, bien sûr, que cette langue originale a été sumérienne, écrite depuis la fin du 4e millénaire avant. Comme nous le connaissons tous maintenant, dans les années 1840, Paul-Émile Botard et plus tard Austin Henry Layard ont commencé à creuser les ruines des anciens palais assyriens dans et autour de la ville de Mosul. Ils ont découvert plusieurs versions de mêmes inscriptions en pierre. Quand elles ont arrivé à Paris et à Londres, elles ont été publiées sous forme de dessins et plus tard en caractères imprimés. Cela a permis aux chercheurs d'étudier systématiquement la variation et l'utilisation des signes. Le fait que beaucoup d'inscriptions représentaient des événements et des rois qui étaient déjà connus des derniers livres de l'Ancien Testament, bien que souvent d'un point de vue très différent, a également permis une corroboration externe. Puis, en 1850, Layard a envoyé une cargaison particulièrement importante de tablettes au British Museum de l'ancienne ville assyrienne de Nineveh, suivie d'une autre grande quantité de son assistant Hormuz Rassam, 4 ans plus tard. Montant plus de 25 000 pièces, ces tablettes se sont connues collectivement comme la bibliothèque du roi Ashurbanipal ou la collection Kuyunjik, après le nom ottoman de l'endroit où ils ont été découverts. Ainsi, vers le milieu du siècle, un genre particulier de texte cunéiforme est devenu compréhensible, c'est-à-dire les récits narratifs des batailles assyriennes et des conquêtes des Assyriens. Cependant, il y avait encore beaucoup de scepticisme à l'extérieur de la petite communauté des déchiffreurs autodidactiques. Cette lettre, voilà, en anglais, mais je vais traduire. Cette lettre l'explique bien. Dans les années 30 et 40 du 19e siècle, un homme, William Henry Fox Talbot, avait été un pionnier de l'invention et du développement de la photographie. Mais maintenant, il recherchait de nouveaux défis. Le déchiffrement de cunéiforme lui ressemblait au prochain grand problème intellectuel qui nécessitait une solution. À ce stade, il s'attaquait toujours à comprendre ce qui avait été fait jusqu'à ce moment. Et il pouvait donc sympathiser avec les très grands degrés de doute et d'hésitation que les observateurs ressentaient au sujet de l'effort de déchiffrement, dont tu es un délire. Talbot expose de manière sympathique les objections des sceptiques. D'abord, les déchiffrateurs sont coupables de raisonnement circulaire parce que leur interprétation de l'écriture dépend de leur compréhension de la langue et vice-versa. Deuxièmement, il est impossible à choisir entre des interprétations rivales dont certaines sont radicalement différentes des autres. Il donne alors un long camp en faveur des méthodes rigoureuses de Rawlinson et de Edward Hinks, qui était un ecclésiastique irlandais. Et leur découverte indépendante des points clés de déchiffrement et de leur engagement critique envers les autres. Cette lettre a attiré l'attention de Rawlinson et aussi de Edwin Norris, l'ancien déchiffrateur de la langue ilamite, qui était à cette époque le secrétaire de la Royal Asiatic Society à Londres. Ensemble, ils ont organisé un événement qui a été conçu pour prouver hors de tout doute que le cunéiforme avait en fait été déchiffré. Rawlinson a préparé une copie cunéiforme d'une inscription du roi et souverain Tiglath-Pileser qu'il n'avait pas encore publiée. Norris a envoyé des copies à Talbot, à Hinks et à Jules Oppert, orientaliste française, avec des instructions pour traduire le texte sans consultation et pour lui retourner leur traduction dans une enveloppe scellée. Les traductions ont été ouvertes et comparées à la Royal Asiatic Society le 20 mai 1847. Comme vous voyez, Norris était très déçu par le résultat. Il a écrit en secret à Talbot. Maintenant que c'est fait, il n'y a rien qui en résulte. Il a déploré pour moi, et je peux dire pour l'égyptologue Sir Gardner Wilkinson, le résultat était parfaitement satisfaisant comme base réelle du déchiffrement. Mais les autres souhaitaient entrer dans la preuve linguistique tout en admettant qu'ils étaient tout ignorants de langue sémitique. Cependant, le comité a réussi à présenter un rapport à Norris à la fin du mois et il l'a présenté à une réunion publique de la société au début de juin. Mais encore, il y a eu de retard et pendant longtemps, il semblait que leur rapport ne serait jamais publié. Lorsqu'il est apparu au Journal of the Royal Asiatic Society, 4 ans plus tard, le rapport a parlé d'un accord remarquable dans les traductions comparées. Malgré le fait que nombreuses lignes de construction difficiles au sens incertain n'ont pas été traduites. Et il semblait que c'était la fin de l'affaire. Le cunéiforme était une véritable écriture d'une langue réelle, c'est-à-dire assyrienne, et cette écriture était vraiment lisible. Mais, comme nous verrons, ce n'était pas aussi simple que cela. Le déchiffrement officiel du cunéiforme n'a pas rendu le travail de ce sériologue beaucoup plus facile qu'auparavant. Il n'y avait toujours pas de dictionnaire, pas de grammaire, pas de liste de signes, aucun des outils pédagogiques que nous tenons pour acquis aujourd'hui. Et le mot cunéiforme lui-même ne signifiait encore que l'écriture d'Assyrie au début du premier millénaire avant. Personne n'a encore soupçonné les résultats à venir qui allaient hériter et tirer son histoire de 3 siècles à 3 millénaires. Ainsi, le contenu et la conceptualisation de cunéiforme changeaient considérablement au cours du 19e siècle. À mesure que de nouvelles découvertes ont été faites sur le terrain et dans les musées. Comme nous verrons, nécessairement, les méthodes d'enseignement et d'apprendre le cunéiforme ont été aussi fortement contraintes et façonnées par ces découvertes. Au British Museum, à cette époque, la tablette cunéiforme était un tout nouveau type d'objet, ce qui posait des problèmes presque insurmontables. Le nombre était tellement écrasant. Le état était souvent si fragmentaire et si fragile, et le contenu était si impénétrable que les personnels du musée ne se perdaient pas sur la façon de les guérir. Au moment du déchiffrement officiel, seulement 278 des milliers de tablettes avaient été photographiées et cataloguées comme un numéro K pour les marquer comme membres de la Swaziland Kyungic Collection. Le British Museum a finalement créé un département des Antiquités orientales en 1860, c'est-à-dire 10 ans après l'arrivée des premières tablettes. Ensuite, l'organisation, la conservation et la publication des tablettes de Kyungic ont vraiment commencé. Cependant, pour les 2 prochaines décennies, le travail a été fragmenté et sporadique, car le département avait un personnel minuscule et presque pas de place pour des chercheurs invités à travailler. Au moins, la guerre de Crimée aux années de 5 ans a terminé les fruits dans la Mésopotamie pendant presque 20 années. Donc, il y a encore des tablettes qui sont arrivées. Donc, l'année après la construction du département nouveau, Rawlinson et Norris ont édité le premier volume de la série Cuneiform Inscriptions of Western Asia, connu des assyriologues encore aujourd'hui simplement comme Rawlinson. Il s'agissait presque exclusivement de récits historiques narratifs, y compris, comme vous voyez, l'inscription de Tiglath-Pileser qui avait été utilisée pour le déchiffrement officiel. Ce sont les éléments de base, littérales et métaphoriques, de la chronologie dynastique et militaire assyrienne et babylonienne, qui, une fois édités et traduits dans d'autres publications, ont aidé les historiens et le grand public général à situer l'ancienne Assyrie par rapport aux événements ou aux peuples de l'Ancien Testament. Mais ce livre lui-même ne contenait aucune traduction, ni même des transcriptions alphabétiques de textes anciens. Il se composait entièrement de lithographies, comme vous voyez, d'inscriptions cunéiformes. Beaucoup de ces inscriptions étaient en fait des copies composites, compilées à partir de plusieurs manuscrits fragmentaires, y compris des monuments royaux, des briques, des pierres de fondation de lieux comme Nineveh et Nimrud. L'objectif de recréer une partie aussi importante de la composition originale possible. Le texte de l'inscription de Tiglath-Pileser, que vous voyez par exemple, a été compilé à partir d'inscriptions sur 4 objets différents. Le texte était plus important que les objets pour ces hommes. À ce moment aussi, Norris et Talbot ont commencé à travailler ensemble sur un glossaire d'assyrien. Ils ont persuadé Rawlinson que le deuxième volume de la série Rawlinson devrait se concentrer sur les listes de mots sumériens et assyriens et d'autres textes bilingues, afin qu'ils puissent collecter systématiquement le vocabulaire. Ce livre est sorti assez vite. Talbot a publié ses notes sur des mots individuels dans le Journal of the Royal Asiatic Society, et Norris a compilé un dictionnaire dont trois volumes jusqu'à la lettre N sont apparus avant sa mort en 1872. Les troisième et le quatrième volumes de Rawlinson sont apparus respectivement en 1870 et 1875, largement mis en place par le jeune conservateur George Smith. Ces livres ont finalement donné accès à la mythologie et au savoir de l'Empire assyrien. Malheureusement, même avec l'aide des anciens vocabulaires publiés dans le deuxième volume de la série, la majeure partie de ce nouveau matériel s'est révélément désespérément insoluble. Il comprenait une terminologie technique pour des concepts profondément étrangers à ses lecteurs modernes. Rédigé dans une écriture densément logographique, dont les interprétations étaient très spécifiques au genre. Au sommet d'un dessin magnifiquement exécuté, des deux œuvres bilingues sumérien-acadiennes, qui est maintenant parmi les papiers de Talbot dans la British Library, Talbot a écrit avec plante « Je ne peux pas comprendre la moitié de ce signe !» Et ce n'était pas un problème isolé. Comme nous le verrons, bien que le déchiffrement et établit les principes par lesquels l'écriture cunéiforme fonctionnait. Il s'agit encore d'un défi majeur à le lire. Mais plusieurs des méthodes qu'on a développées à ce temps-là sont devenues les fondations de pédagogie plus formelle de la fin du 19e siècle. Talbot a conservé de nombreux cahiers de tous ces travaux, inclut la sériologie. Et vous voyez ici un des cahiers pour le déchiffrement officiel. Nous pouvons aussi tracer la trajectoire de ses intérêts et de ses aptitudes à partir de 1853, lorsqu'il a débuté, à sa mort en 1877. Bien que le comité de déchiffrement ait jugé, à juste titre, que le travail de Talbot n'avait pas la même qualité de Rawlinson et Hinks, il est clair que ses pairs l'ont considéré comme un membre à part entière de la communauté assyriologique. Même le conservateur Wallace Budge, qui n'était pas facilement satisfait, a estimé qu'il n'était pas un simple orientaliste amateur. Ces cahiers des décennies après le déchiffrement officiel sont donc une fenêtre unique dans les intérêts et les méthodes de la sériologie autodidacte à ce temps. L'historienne Nellie Dickman vient de publier à ce mois-ci une monographie détaillée sur les cahiers assyriologiques de Talbot, et je ne veux pas anticiper ses résultats. Je résumerai donc une courte étude que j'ai faite avant que Nellie a commencé son doctorat, sur une édition d'un texte cunéiforme que Talbot a publié en 1876. Talbot l'appelait ce texte La lutte contre Belle et le dragon et l'épée allumée qui tournait de tous les côtés. Mais nous le savons maintenant comme la tablette d'énumérer l'épopée de création à la tablette 4. Trois des cahiers survivants de Talbot contiennent son travail préparatoire sur le papier. Ensemble, ils nous permettent de reconstruire dans une certaine mesure les moyens par lesquels il a produit son édition. La source principale de Talbot n'était pas une tablette cuneiforme réelle, même si la tablette était facilement accessible pour lui au British Museum. Et il n'avait pas de photo. Talbot, comme beaucoup de sériologiques d'alors et maintenant, a considéré des photographies insuffisantes pour travailler. Cela peut sembler une déclaration surprenante, même choquant pour Talbot, le pionnier de la photographie. Mais les tablettes cunéiformes sont notoirement résistantes à la photographie traditionnelle. Si le but de la photographie est une représentation entièrement lisible de l'inscription, jusqu'à l'avènement de la photographie numérique de nos jours, les copies autographes en noir et blanc étaient le moyen préféré de la communication assyriologique du contenu textuel des tablettes. Ainsi, Talbot a travaillé d'abord à partir d'un dessin que vous voyez ici, qui venait d'être publié par l'assyriologue allemande Friedrich Delitzsch dans le livre Assyrische Lesestücke, dont nous reviendrons bientôt. Puis, lorsque George Smith a trouvé encore un fragment qui a rejoint la pièce de Delitzsch, Talbot l'a incorporé aussi. Comme l'était la pratique du British Museum à ce moment, la représentation de la tablette de Smith était en caractère cunéiforme en plomb, reconstruit à partir d'un rendu alphabétique, plutôt qu'une copie autographique telle que Delitzsch défendait. Les premières ébauches de Talbot ne survivent pas. L'un des trois cahiers existants contient un brouillon de l'introduction, de la traduction et de l'édition du recto de la tablette. Les deux autres contiennent des notes de lecture ligne par chaque côté de la tablette. Les révisions multiples de la traduction et des notes montrent comment Talbot a lutté contre presque tous les mots. Sa collaboration antérieure avec Norris sur le glossaire assyrien avait nécessairement concentré sur la terminologie des annales des rois assyriens, pleine de frappes, de pillages et de butins. Les œuvres mythologiques, nouvellement découvertes, étaient dans un registre linguistique complètement différent, avec un vocabulaire entièrement nouveau. Talbot a écrit à peine un mot sur la paléographie, l'orthographie, la morphologie, la syntaxe ou tout autre aspect linguistique de ce texte ancien. Son objectif principal était l'étymologie comparative. La parallèle évidente était l'hébreu, comme vous voyez ici à droite, l'hébreu de l'Ancien Testament, étant à peu près contemporain avec l'assyrien et avec une longue tradition de traduction. Dans presque toutes les lignes de ces notes, comme vous voyez, dans les cahiers et dans la publication, il compare les mots assyriens nouvellement découverts avec des hébreux de même taille. Plus rarement, il s'appuie sur le syriaque chaldéen, c'est-à-dire l'araméen irakien, l'arabe ou le grec ancien. Ainsi, en ce qui concerne la lecture de l'écriture elle-même, au milieu des années 70, il était rare de rencontrer de nouveaux signes cunéiformes. Talbot pouvait assez confier, si souvent par erreur, assigner une lecture à presque tous les signes du texte. Mais la lecture qu'il choisit dépendait souvent de savoir qu'il pouvait trouver une apparenté hébreu pour le mot qui en résultait, vous voyez ici. Tauba aussi a eu tendance à choisir des syllabes sur les déterminants ou sur les logogrammes. Il a souvent construit une similitude étymologique et culturelle pour produire un texte qui remplissait la soif des lectures victoriennes pour les parallèles bibliques. En fait, il soutient que l'arme de Bell elle ressemble tellement à l'épée de Chérubin dans la Genèse, qui a tourné dans tous les sens pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Que la même arme céleste doit certainement être destinée. L'épée allumée par laquelle des chérubins ont gardé l'humanité pécheresse au du jardin d'Éden après la chute de Genèse. En effet, on sait maintenant qu'il n'y avait point d'épée dans le texte. Et vous voyez ici, il n'était pas possible pour lui d'éviter le raisonnement circulaire qu'il avait identifié 20 ans auparavant. Et aussi le dragon qu'il voyait dans le texte. En fait, maintenant on verrait le monstre de la mer, Tiamat. Pour occuper une histoire très longue, il s'avère qu'il y a ou pas moins de 3 dragons erronés impliqués. Le premier est de Daniel, chapitre... livre de Daniel du Vieux Testament, également connu comme Bel et le Dragon. Talbot ne mentionne pas Talbot ne mentionne pas directement ce dragon, mais il est transparent la source du titre de son article. Le deuxième dragon provient d'Apocalypse Nouvel Testament, dans lequel apparut un dragon dans le ciel ayant 7 têtes, vaincu et expulsé par Saint Michel. Le troisième est l'aigle lion masculin que nous connaissons maintenant comme Amzu, vaincu par le dieu Ninurta et qui apparaît sur le livre de George Schmidt que vous voyez ici. Le mythe lui-même a été peine déchiffré par Smith à ce stade, mais l'histoire représentait une énorme bas-relief du temple de Ninurta à Nimrud qui avait été exposé au British Museum depuis environ 20 ans à ce moment. L'étude de Talbot sur Bel et le dragon, publiée dans l'année de sa mort, marque la fin de l'ère autodidactique. Sa génération d'assyriologiques pionniers faisant partie de 3 milieux. Il y avait des messieurs comme lui et comme Rawlinson, et en France comme Menon, qui avaient les loisirs et les moyens de poursuivre leurs intérêts intellectuels. Et il y avait des ecclésiastiques comme Hinks. Et il y avait des employés salariés d'institutions étatiques telles que le British Museum, Royal Asiatic Society ou la Bibliothèque nationale de France, c'est-à-dire Smith, Norris, Opère. Beaucoup de ces hommes étaient formés à l'université. Ils étaient tout bien éduqués au classique et dans la Bible. Mais leur endroit d'étude était le musée ou la maison. Mais maintenant, dans les années 70 du 19e siècle, une nouvelle génération de sériologiques est née. Nouvelle génération de sériologues est née. S'est formée dans les universités allemandes et a trouvé un emploi dans les départements universitaires d'études bibliques et d'études orientales. L'ère de l'éducation formelle avait commencé. J'ai mentionné il y a quelques minutes que l'une des sources de Talbot pour Belle et le Dragon était un dessin de la tablette de Friedrich Delitzsch. Delitzsch, 50 ans plus jeune que Talbot, était fils d'un théologien et professeur de l'université. Le système universitaire prussien a été fondé sur les idées de Wilhelm von Humboldt, sur la liberté intellectuelle, l'expérimentation et la découverte de nouvelles connaissances. À partir des années 20 du 19e siècle, les universités allemandes ont transformé le paysage éducatif d'Europe et d'Amérique du Nord, démontrant des avantages des laboratoires, des séminaires et des enseignements axés sur la recherche. L'Université de Leipzig est devenue un centre important pour les études sémitiques. Le père et le fils de Delitzsch étaient au centre de ce développement. Au cours de sa carrière, Friedrich Delitzsch a formé un grand nombre d'assyriologues allemands, européennes, américaines, qui ont ensuite développé l'assyriologie en tant que sujet universitaire dans nombreuses institutions anciennes et nouvelles. Et Delitzsch a également diffusé ses méthodes d'enseignement avec son livre très influent, Assyrische Lesestücke, dont il a produit 5 éditions entre 1876 et 1912. Chaque édition représente une refonte considérable de l'un avant. Il a ajouté de nouveaux textes tels qu'ils ont été découverts. Il a mis à jour la liste d'inscriptions et ajouté un glossaire. Et il a réorganisé les contenus pour refléter ses dernières idées sur les bonnes pratiques pédagogiques. En traçant le développement du Lesestücke depuis plus de 40 ans, en fait plus tard, nous pouvons voir comment Delitzsch a façonné et remodelé la discipline d'assyriologie et de quelle importance ces idées restent. Comme vous voyez, on utilisait son manuel toujours en Berlin, à Berlin dans les années 30. La première édition du Lesestücke reflète l'agenda de recherche établi au British Museum. C'est impossible à lire. Je vais expliquer. Tout d'abord, il y a 2 listes de signes. Une pour les syllabes, une pour les logogrammes. Ensuite, Delitzsch suit les intérêts de Norris et de Talbot pour établir une compréhension systématique du vocabulaire cunéiforme et de l'assyrien. Il tire beaucoup sur les listes lexicales de Rawlinson II dans le premier chapitre. Et dans le deuxième chapitre, les dernières manières sont d'abord basées sur les recherches de Delitzsch dans le musée. Il a inclus l'épopée de la création, y compris le Bel et le Dragon de Talbot, la descente d'Ishtar aux enfers, c'est-à-dire les grands mythes. Rappelez-vous ceci parce que nous le reverrons. Après cela, il y a des inscriptions royales en syrien, encore peut-être il y a 15, quelque chose comme ça, 15 inscriptions assyriennes. Dans l'ordre chronologique, en commençant par le texte de déchiffrement officiel de Tiglath-Pileser. Et puis, quelques extraits courts d'autres gens apparaissent à la fin. C'était le premier manuel de la syriologie. D'où vient la modèle? Il n'est pas surprenant. Des idéaux pédagogiques de l'université humboldtienne. Wilhelm von Humboldt lui-même avait été linguiste. arguant que l'étude des langues, du monde et l'histoire mondiale des idées et des sensations de l'humanité. Pourtant, même pour les langues vivantes, comme celles que Humboldt a étudiées, le modèle pédagogique typique était basé sur la tradition séculaire d'enseigner le latin. Il y avait, et toujours en fait, essentiellement deux types de manuels scolaires. Le premier était le livre de grammaire translation, qui a généralement introduit un ou plusieurs nouveaux points de grammaire dans chaque chapitre, et puis énoncer les règles par lesquelles ils ont fonctionné. Les étudiants ont alors exercé ces points de grammaire, traduisant des phrases simples dans et hors de la langue étudiée. Puis, pour les étudiants plus avancés, il y avait des chrestomathies ou lesestücke, comme cela de Delitzsch, qui a fourni des passages de lecture soigneusement choisis et gérés, qui ont permis aux étudiants de mettre leurs connaissances en pratique. Nous pouvons le caractériser à peu près comme méthode d'enseignement déductive et inductive. Dans le premier, les grammaires à traduction, les règles de la langue sont données explicitement. Dans la seconde, les chrestomathies, vous devez les déduire activement. L'idée de l'enseignement inductif des langues était encore très nouvelle dans les années 70. Et il est intéressant que Delitzsch ait choisi de le suivre. Mais peut-être cela reflétait bien le fait que les règles de cuneiforme de l'acadien n'avaient pas encore été entièrement codifiées partout à ce moment. Même les enseignants et les chercheurs de la sériologie travaillent eux-mêmes par les méthodes inductives à ce moment. Le temps est court, alors laissez-nous sauter maintenant au début du XXe siècle. Les années 70 du XIXe siècle avaient également marqué la reprise de l'exploration en Mésopotamie, avec l'accent maintenant sur le sud, en Babylonie. Le British Museum a envoyé à Ormuzd Rassam et à d'autres à Bagdad pour acquérir encore plus de tablettes pour le musée. Vastes fouilles, on ne pouvait pas les appeler les fouilles archéologiques, produisaient des tablettes cunéiformes en nombre croissant, des dizaines, même des centaines de milliers. Au milieu des années 90, il fallait reconsidérer la manière dont le musée fonctionnait, encore une fois. Étant donné qu'il n'avait pas encore fini de traiter les tablettes à ce rayon de Kuyunjik, un nouveau département des antiquités égyptiennes à assyriennes a été créé pour remplacer l'ancien. Son nouveau conservateur, Ernest Wallace Budge, a lancé un programme systématique de documentation, de stockage et de publication. Le département a publié 5 volumes de catalogues de tablettes de Kuyunjik par Carl Bezold à intervalles réguliers dans les années 90. Le dernier étant un index du sujet général qui fournissait un aperçu des découvertes. Le département a également commandé des dessins à l'échelle, ce sont des hand copies en anglais, des tablettes de Kuyunjik et d'ailleurs. La série Cuneiform Texts from Babylonian Tablets a produit environ 30 volumes avant le début de la Grande Guerre et a continué à se développer sporadiquement tout au long du XXe siècle. Ses outils de recherche, ainsi que l'accessibilité accrue de la collection du musée lui-même, ont permis aux étrangers de travailler systématiquement sur les tablettes pour la première fois. Les portes de la publication ont été ouvertes. Dans les années 90 et jusqu'à la Grande Guerre, les Assyriologues ont édité et traduit une masse de tablettes cunéiformes de Syrie et de Babylonie. Documents légaux, correspondances royales, politiques et savants, hymnes et prières, présages, célestes, etc. Ces études ont permis à l'auteur une nouvelle génération de recherche et de l'éducation. On voit des développements clairement de la 15e édition de l'Eisestücke, Stücke de Delitzsch, qui a apparu, comme vous voyez. Cette édition est trois fois plus longue que la première. Comme vous voyez, il y a maintenant une petite grammaire au début et un glossaire à la fin. Ce sont des innovations en fait de l'édition des années 80. Du 19e siècle. Delitzsch a également ajouté des exercices de lecture artificielle, de courts mots et de courts phrases, dans un geste à l'école de grammaire traduction de l'enseignement du langage. Mais vous voyez qu'il a également conservé les anciens syllabaires, dont vous vous souvenez, étaient les éléments essentiels de l'éducation cunéiforme au premier millénaire avant. Delitzsch s'intéresse aussi à l'éducation ancienne, comme vous pouvez le constater peut-être, non, encore impossible à lire, mais dans le troisième chapitre, ce sont des textes scolaires d'antiquité. Quant à le reste des textes, il a abandonné des textes mythologiques, absolument, car en toute honnêteté, ces textes n'étaient encore trop mal compris pour fonctionner comme bon matériel pédagogique en ce moment. Au lieu de cela, il a déplacé les annales royales assyriennes au début. Auparavant, elles avaient, les annales avaient été à la fin. Ceci était en partie pour des raisons pédagogiques. Ce sont des textes narratifs, texte excitant et pourtant répétitif, relativement facile à lire pour les étudiants. Mais il reflète également l'engagement continu avec le passé biblique. Il souligne dans ce livre les campagnes militaires des Assyriens à l'ouest, les territoires bibliques, plutôt par exemple la construction des temples et des palais en Assyrie lui-même. Les contenus de la section babylonienne, au fond, est très curieux. Mais il inclut en fait plusieurs textes des rois assyriens. Mais aussi, il y a la première apparition du roi babylonien Hammurabi, ainsi qu'une petite section sur des lettres de contrat. Bien que les pages d'introduction du livre soient maintenant dactylographiées, par l'écriture manuscrite, la liste des signes et les légistiques eux-mêmes sont-ils dessinés à main comme auparavant. Ce manuel, comme beaucoup d'autres, n'enseigne pas à la lecture d'un véritable cunéiforme, tel qu'il est donc écrit en trois dimensions sur la pierre ou l'argile. Au lieu de cela, l'étudiant apprend à lire le cunéiforme de Delitzsch lui-même, c'est-à-dire en deux dimensions, en noir et blanc, en encre sur papier, dans lequel tous les signes sont soigneusement dessinés, soigneusement espacés pour la lisibilité. Comparez par exemple les copies cunéiformes faites au même moment, par l'élève de Delitzsch, Hermann Hilprecht, et ses disciples, au même époque, qui comptent de montrer les dispositions réelles des signes sur la tablette, sans perte de lisibilité. L'école Hilprecht, si je peux les appeler, publiait aussi des photographies des tablettes. Mais peut-être pour Delitzsch, c'était une technologie trop coûteuse pour un manuel. Néanmoins, pour Delitzsch, Comme pour les gens du British Museum auparavant, au moins au contexte pédagogique, c'était le texte qui restait plus important que l'objet. C'était tout en fait à lire ce texte très artificiel. Le Lesestück de Delitzsch ont eu de nombreux imitateurs, tout dans l'Europe continentale. Donc on peut diviser les manuels dans les deux types. Ce sont des grammaires pédagogiques, des grammaires en traduction et les chrestomatiques, comme vous voyez. Vous voyez aussi que les assyriologues anglophones préféraient adhérer au modèle de manuel de grammaire traduction. Et ce n'est que dans les années 60 et 70 du 20e siècle que les assyriologues américains comme Prince et Marcus ont introduit des méthodes inductives dans le manuel scolaire. Mais je ne sais pas encore si ces livres ont été largement utilisés. Regardons plutôt les chrestomaties. Chacun d'entre eux suit la structure de base et l'accent mis par Delitzsch. Dans tous les cas, les inscriptions royales prédominent. Presque tout présente les inscriptions royales assyriennes devant les babyloniennes, même lorsque les inscriptions babyloniennes, par exemple en Hammurabi, les précèdent. Le livre de Borger, c'est la seule exception. Tous aussi sont d'accord pour dire que les écritures les plus importantes à prendre sont l'écriture néo-assyrienne, suivie de néo-babylonienne et plus tard le paléo-babylonienne formelle du roi Hammurabi. Et aussi un petit groupe de mythes narratifs, ceux-ci qui étaient découverts dans les années 70 du 19e siècle, restent populaires. Juste comme à Talbot, c'était la quatrième tablette de l'épopée de la création, c'est-à-dire le bel et le dragon de Talbot, la descente d'Ishtar et l'histoire des inondations de Gilgamesh, chapitre 11, publié pour la première fois par George Smith. D'autres périodes, d'autres genres, qu'ils soient documentaires ou scolaires, restent périphiques. En fait, dans les années 40, les assyriologues Nasder et Böll incluent des choix très intéressants de textes, ce qui étend considérablement la gamme chronologique et générique des anciennes inscriptions des Sargonides au IIIe millénaire, aux rituels et lamentations séleucides au IIIe siècle avant. Mais dans les années 50, les choix conservateurs sont réaffirmés dans les travaux de Bauer et de Borger. Le Lesestück de Borger, publié pour la première fois il y a presque 50 ans, reste le manuel standard dans les programmes d'assyriologie britannique, même aujourd'hui. Il est étonnant de penser que ma génération d'assyriologues était encore dans les années 90, formée essentiellement de la même manière que les étudiants de Delitzsch de les années 120 années auparavant. Sauf l'addition du Codex Hammurabi. À Oxford, dans ma jeunesse, nous avons commencé par étudier la grammaire traduction Introduction to Akkadian de Kaplis en seulement 4 semaines. Il s'agit d'un manuel de grammaire traduction dans le style victorien. On donne tous les détails d'accent égal de grammaire sans tenir compte de ce qui sera réellement utile. Ensuite, nous lisons toutes les lois d'Hammurabi dans les formes des signes néo-assyriens, l'exercice de l'écriture le plus artificiel de la cuneiforme. Le reste de la programme d'introduction consistait en la descente d'Ishtar, la troisième campagne militaire de Sennacherib contre les terres bibliques et l'onzième chapitre de Gilgamesh. Et comme vous voyez, et je l'ai trouvé ce matin à Oxford, encore, c'est le même programme. Et je sais pour fait, c'était le même programme que le professeur de mon professeur, Oliver Gurney, a construit dans les années 70, sinon plus tôt. Et en fait, à Cambridge aussi, on utilise un programme très pareil. J'ai commencé à faire des recherches sur le travail assyriologique de Tobit et ses contemporains il y a environ 10 ans, lorsque l'on m'a demandé d'enseigner une étudiante de doctorat, Miriam Brucius, qui étudiait les relations entre la carrière photographique de Tobit et ses intérêts dans l'Antiquité. Au début, je pensais qu'il n'y avait aucune histoire à écrire, parce que les méthodes de sa génération étaient essentiellement les mêmes que les miennes. Et puis, j'ai progressivement compris combien il était étrange. La pédagogie de la sériologie, au moins en Grande-Bretagne, est restée à l'époque victorienne, alors que tout autour de nous, il y a eu des développements importants dans la pédagogie des langues, notamment, ironiquement, en la langue latine. Comme tous les scribes professionnels de l'époque paléo-babylonienne, nous nous accrochons à des méthodes nostalgiques et anciennes, basées sur lire et mémoriser des textes par cours. Comme tous les scribes babyloniennes, nous apprenons qu'il y a de la vertu dans leur grande complexité et implicitement que la sériologie réelle consiste à l'étude de l'histoire narrative, ou des grandes œuvres de mythologie et de la littérature. Le reste, par implication, est périphérique. Bien que presque aucun de nos étudiants ne connaisse maintenant aucun mot de la Bible, le programme reflète encore les préoccupations théologiques de 150 ans auparavant. En pourtant, en réalité, nous ne sommes pas comme les scribes paléo-babyloniennes, ayant besoin de protéger notre identité professionnelle des initiés et des prétendants. Nous sommes plus comme les derniers savants de Babylone Path. Nous aimons notre travail et nous savons qu'il importe. Et pourtant, nous sommes une espèce en voie de disparition. Et nous nous battrons à tirer la prochaine génération d'étudiants. La semaine prochaine, je parlerai de nouvelles approches de la pédagogie du travail cuneiforme qui se déroule maintenant et cela pourrait arriver à l'avenir, ce qui pourrait aider à rendre la sériologie plus accessible et plus significatif, pas seulement en Europe et en Amérique, mais aussi au Moyen-Orient. Merci.